Michael Ayari, bonjour.
Bonjour.
Dans votre rapport sur la Tunisie, vous mettez en cause la volonté et les efforts menés pour maintenir la coalition parlementaire et gouvernementale de Nida Tounes, le parti du président, et An-Nahda, parti islamiste. Cette coalition, vous dites, retarde la mise en œuvre de la constitution de janvier 2014.
Oui. En fait, si vous voulez, le fait qu'il y ait une coalition au pouvoir entre deux partis politiques qui sont assez différents, en fait, hein, du point de vue de leurs fondements doctrinaux, c'est-à-dire un parti islamiste et un parti, entre guillemets, séculariste ou nationaliste, qui ont aussi des histoires particulières, hein, des histoires passées faites de confrontations, notamment en 2013, c'est qu'en fait, pour pouvoir gouverner, ils sont obligés de dépenser beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour maintenir leur coalition, c'est-à-dire que au lieu de s'investir finalement dans les réformes prévues par la Constitution, c'est-à-dire mettre en place la Cour constitutionnelle, mettre en place les instances constitutionnelles indépendantes, essayer d'organiser de manière efficace et rapide les élections municipales qui ont été reportées à plusieurs reprises et qui sont prévues pour 2018, en fait, on se rend compte qu'ils essaient toujours de collaborer ensemble, mais finalement, leur collaboration, c'est une collaboration faite de solidarité, de partage de pouvoir, mais aussi de concurrence, en fait. Et aucun des deux n'a intérêt, finalement, à approfondir les réformes démocratiques et à essayer de mettre en place les conditions d'une alternance politique.
En plus de ces éléments que vous avez cités, la tentation autoritaire est, selon votre rapport, très forte chez la classe politique en Tunisie.
Plutôt, je dirais, une nostalgie de la période de l'autoritarisme et de la période de Ben Ali dans les années 90, où le pouvoir d'achat était somme toute plus élevé, parmi les catégories populaires. Et en fait, c'est ça un peu le problème, c'est-à-dire qu'il y a un essoufflement du discours démocratique qui en 2011 était très fort, hein, très flé, et beaucoup mettent en cause la capacité de la démocratie, du respect des libertés publiques, de la décentralisation des centres de pouvoir, du fait qu'il y ait des contre-pouvoirs solides et indépendants, mettent en cause leur capacité finalement à aller de l'avant. Et il y a un discours qui se diffuse de plus en plus, qui consiste à dire que la démocratie a affaiblit l'État et qu'en fait, pour relever les défis économiques et sécuritaires et surtout économiques auxquels la Tunisie est confrontée, il faut tout recentraliser dans un pouvoir exécutif très fort, homogène idéologiquement et qu'en fait, cette coalition n'est pas en mesure de le faire. Et ça, c'est un gros problème parce que finalement, ça affaiblit l'État, ça affaiblit les institutions et c'est un cercle vicieux qui fait que ça renforce la volonté de vouloir revenir en arrière.
Alors, selon vous, Béji Qaïd Essebsi prend des initiatives personnelles tout en continuant son activité au sein de son parti, en privilégiant son fils et également vous dénoncez son interventionnisme, le président tunisien.
C'est des faits, si vous voulez, si vous reprenez un peu toutes les revues de presse, tout ce qui s'est passé en Tunisie depuis 2015, les tensions politiques de 2015, surtout 2016, étaient rythmées par ça, par ces polémiques-là. C'est-à-dire que vous avez le parti du président de la République qui a éclaté en partie à cause de la montée du fils du président au sein de ses structures, etc., avec des conflits de clans à l'intérieur. Et vous vous rendez compte aussi que si théoriquement le président de la République n'est plus, disons, président du parti, vous rendez compte que de manière occasionnelle, il joue un rôle, il intervient, il pèse sur les équilibres internes, ce qui, ces dernières années, a contribué à l'affaiblir.
Le Parlement, vous dites, risque de devenir une chambre d'enregistrement des décisions politiques prises. En amont, beaucoup de parlementaires changent d'avis après avoir reçu un coup de fil.
C'est-à-dire qu'en fait, le Parlement n'est pas le lieu, en tout cas les séances plénières et les commissions ne sont pas les lieux où la décision se prend. Vous avez ce qu'on appelle une commission du consensus qui est là et qui est plus ou moins opaque et c'est à l'intérieur que les tractations entre partis politiques se font et aussi beaucoup de décisions se font en amont entre le président de la République et le président de Nahda, Rached Ranouchi, donc du parti islamiste. Et donc le Parlement, il y a des fois des ambiances de polémique, l'opposition qui tape sur les tables, etc. Mais tout le monde sent qu'il est là pour exécuter des décisions.
La Tunisie souffre de la corruption, de la dégradation des services publics, la baisse du niveau de vie. Vous soutenez que les problèmes économiques sont gérés au jour le jour, ce qui menace la sécurité de la Tunisie. On en est en plein dedans?
Oui, ben, si vous voulez, il y a actuellement, en fait, il y a des émeutes un peu partout dans le pays. Donc, il y a quand même une colère populaire dans le sens où beaucoup de citoyens ordinaires ont du mal à joindre les deux bouts. Effectivement, les gouvernements sont face à un gros problème. La Tunisie n'est pas un État rentier avec des ressources naturelles, du pétrole, du gaz, etc. Et la politique dans laquelle ils sont depuis 2011, c'est une politique d'achat de la paix sociale. Donc, en fait, plus ils essaient d'acheter la paix sociale en essayant de donner des emplois publics non productifs, en essayant de faire des programmes pour les chômeurs, de titularisation aussi des contractuels, etc. Vous vous rendez compte que la moitié du budget de l'État est utilisée pour payer les salaires dans la fonction publique, ce qui fait qu'il n'y a plus rien pour les projets de développement, pour l'investissement, et donc ça pose un gros problème, c'est-à-dire que les gens se révoltent par rapport à la dégradation de leurs conditions de vie, certes, mais le problème c'est qu'en face, il n'y a pas de politique économique claire, d'un changement de politique économique par rapport à celle qui a été faite dans les années 90, puisque ce type de politique atteint ses limites, et à un moment donné, il faudra bien que les gouvernants mettent en place une stratégie qui consiste à discuter au niveau national avec tous les entrepreneurs sur les meilleurs moyens de faciliter les projets de développement, de faciliter les investissements nationaux et de développer la création de richesses plutôt que de polémiquer sur le fait de partager le peu qui reste.
Michael Ayari, merci.